Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 20 août 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran est déterminé à renforcer son partenariat avec la Chine et la Russie. L'Iran condamne fermement l'attaque terroriste au Pakistan. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Tzid Hassan Nasrallah, a annoncé l'envoi depuis l'Iran d'un navire pétrolier vers le Liban. Le retrait américain d'Afghanistan montre l'échec des forces d'occupation dans notre région, a souligné le chef du mouvement de résistance populaire Ansar Allah du Yémen. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. La promotion de la coopération avec la Chine est l'une des principales priorités du gouvernement iranien dans le domaine de la politique étrangère, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping. Ebrahim Raisi a eu également un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Entretien téléphonique au cours duquel il a souligné « Nous cherchons des moyens de lever les obstacles au développement des relations et d'ouvrir de nouvelles portes. Et nous sommes déterminés à augmenter le volume des échanges bilatéraux avec la Russie », a-t-il souligné. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a fermement condamné l'attaque terroriste contre les défilés de deuil de l'imam Hossein Beni Swatil dans la province du Punjab au Pakistan. Il a également exprimé ses profondes condoléances aux familles des victimes de cet acte terroriste. Khatibzadeh a souligné la nécessité de lutter contre toutes les formes d'actes terroristes inhumains et a appelé à la coopération de tous les pays de la région pour punir les auteurs, les organisateurs et les partisans et les commanditaires de tels actes terroristes. Lors de la commémoration d'Ashura, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a assuré que le premier navire chargé de dérivés de pétrole depuis l'Iran va appareiller dans les heures prochaines, mettant en garde américains et israéliens contre toute velléité de l'attaquer. Je voudrais vous annoncer en ce 10e jour de Muharram, à vous et à tout le monde, que le premier navire d'hydrocarbures va appareiller dans quelques heures depuis l'Iran. Il sera suivi par d'autres navires Il n'est pas seulement question d'un seul navire lorsqu'il va atteindre les eaux de la Méditerranée. Nous parlerons alors des détails à partir du moment où il prendra le large. Il deviendra terre libanaise, a-t-il affirmé pendant son discours. Le retrait américain d'Afghanistan montre l'échec des forces d'occupation dans notre région, a souligné le chef du mouvement de résistance populaire Ansar Allah du Yémen. Les États-Unis sont en déclin et les récents développements en Afghanistan en témoignent, a-t-il souligné encore. Ce leader du mouvement d'Ansar Allah qui s'exprimait lors d'un discours télévisé diffusé en direct depuis la capitale yéménite de Sanaa a indiqué que les Américains dépendent de leurs agents et mercenaires lorsqu'ils mènent des guerres par procuration. Nous conseillons au régime saoudien et émirati ainsi qu'à leurs alliés de cesser les complots contre le monde musulman car une telle conduite n'entraînerait rien d'autre qu'un échec et une déception, a souligné Abdelmalek al-Houssi, leader du mouvement yéménite d'Ansar Allah. Les défenses aériennes de Syrie ont intercepté des missiles hostiles israéliens à Damas et Homs. Les défenses aériennes syriennes ont affronté des missiles dans la campagne ouest de Damas et le sud de Homs, a-t-on appris de la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin. Le correspondant d'Al-Mayadin à Damas a rapporté d'avoir entendu des bruits d'explosion dans le ciel de Damas alors que les défenses aériennes syriennes affrontaient des cibles hostiles. Il a indiqué que les défenses aériennes syriennes avaient affronté des cibles hostiles dans la banlieue ouest de Damas et le sud de Homs. Il a également souligné que l'agression israélienne visait des zones au nord-ouest de Damas. Le correspondant d'Al-Mayadin a confirmé que l'agression israélienne visait des zones au nord-ouest de Damas. Le correspondant de l'agence de presse officielle syrienne Sana a également rapporté avoir entendu des bruits d'explosion dans les environs de Damas et a déclaré que les défenses aériennes affrontaient des cibles hostiles dans le ciel de la ville. C'est la fin de notre journal d'information. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Laxité en Pékin, Moscou envisage de renforcer son partenariat, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. La promotion de la coopération avec la Chine est l'une des principales priorités du gouvernement iranien dans le domaine de la politique étrangère, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping. Raisi a décrit les plans stratégiques de la Chine tels que l'initiative de la ceinture et la route conformément aux intérêts de l'Iran, a déclaré que la pleine mise en œuvre du plan de coopération globale Iran-Chine devrait être à l'ordre du jour de toutes les agences des deux pays. Le président iranien a déclaré que la République islamique d'Iran, avec son plein soutien au principe d'une Chine unie, condamne l'agence flagrante des États-Unis dans les affaires intérieures de la Chine. Le président iranien a déclaré les relations sino-iraniennes comme une priorité pour son gouvernement, tout en soulignant que l'amélioration du niveau de coopération et l'expansion des relations avec la Chine est une priorité pour le gouvernement iranien dans le domaine de la politique étrangère. Le président chinois Xi Jinping, pour sa part, a déclaré que les relations entre les deux pays avaient résisté à divers développements internationaux au cours du dernier demi-siècle. Les relations ont commencé à se resserrer encore remarquablement après la conclusion de l'accord global de coopération sino-iranienne, a-t-il ajouté, notant que la Chine déploierait un maximum d'efforts pour aider l'Iran à recevoir les vaccins. Xi Jinping a également remercié l'Iran pour son soutien aux intérêts fondamentaux de la Chine et a déclaré que le soutien de son pays à l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai était conforme aux intérêts à long terme de cette organisation. Le président iranien a eu également un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Nous cherchons des moyens de lever les obstacles au développement des relations et d'ouvrir de nouvelles portes. Et nous sommes déterminés à augmenter le volume des échanges bilatéraux avec la Russie, a souligné le président Raisi, soulignant que nous sommes déterminés à promouvoir des relations amicales et globales entre les deux pays d'une manière qui deviendra un modèle réussi pour les relations de voisinage, de souligner le président Rouhani. Nous avons une volonté sérieuse de finaliser le document global de coopération Iran-Russie dans les plus brefs délais, a-t-il souligné encore. Pour sa part, lors de cet entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays attachait une grande importance à la promotion des liens avec l'Iran, citant les remarques du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, selon lesquels un niveau élevé de confiance mutuelle et une capacité économique élevée dans les deux pays peuvent conduire à des résultats tangibles dans les domaines bilatéraux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans une précédente émission, le débat, nous avons abordé cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. Et dans le cadre de cette émission, nos invités, nos spécialistes ont souligné que voilà, cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères s'inscrivent dans le cadre d'un plan bien calculé, concocté par l'OTAN, par les États-Unis, avec pour objectif de permettre aux États-Unis, à l'OTAN et au régime israélien d'avoir une présence active en Afrique, partout en Afrique. Et aujourd'hui, on va en fait aborder cette question tout en sachant que le ministre israélien des Affaires étrangères, lors de sa visite à Rabat, a dit qu'il avait évoqué avec son homologue marocain les inquiétudes israéliennes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région. Là, je cite le ministre israélien des Affaires étrangères, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union
africaine. L'Algérie est visée, mais l'Algérie pour en fait pouvoir se défendre, pour pouvoir en fait faire face à ces agissements, surtout du côté israélien, qui vise désormais publiquement, ouvertement, Alger. L'Algérie peut compter en fait sur quel pays, quel facteur, quels éléments. On sait qu'en fait l'Algérie a des liens très très étroits, même sur le plan militaire avec la Russie. Mais l'Algérie peut-elle compter uniquement sur la Russie, qui entretient quand même des relations avec le régime israélien pour se défendre, ou bien l'Algérie doit se tourner également vers d'autres alliances, d'autres facteurs, l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie et l'Irak, pour en fait renforcer son poids sur le continent africain pour faire face, si vous voulez, à ces tentatives israéliennes. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et bonjour à mon collègue, le professeur Dortillier. J'ai aussi très grand plaisir de débattre avec lui comme d'habitude.
Vous l'avez dit, Luc Michel, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est le professeur Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Monsieur Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher monsieur Nerostin, bonjour à tous vos auditeurs et à notre ami monsieur Luc Michel.
Monsieur Dortillier, je viens de lancer le sujet. Oui. Le ministre israélien des Affaires étrangères parle désormais ouvertement des inquiétudes de Tel Aviv au sujet du rôle joué par l'Algérie sur le continent africain. Monsieur Dortillier, jusqu'à présent, en fait, le régime israélien observait le mutisme quant aux prises de position, si vous voulez, de l'Algérie, très particulièrement au sujet de la question palestinienne. Mais désormais, en fait, le régime israélien vise ouvertement l'Algérie à Rabat. Il parle, en fait, de ses négociations. Il fait état de ses négociations avec son homologue marocain au sujet des inquiétudes israéliennes au sujet de l'Algérie, M. Dortillier.
Oui, en effet. Il faut d'abord, pour bien apprécier, comprendre la situation, savoir que depuis très longtemps, dès l'époque du gouvernement de M. Ben Gurion, c'est-à-dire tout à fait au début donc, de la formation de l'État sioniste, l'Afrique en général a été visée par les Israéliens. Il y a une très grande influence exercée même sur des hommes qui ont eu une importance en Afrique. Je dirais même, je ne peux pas citer trop de noms, mais même M. Lumumba ou d'autres, par exemple, avaient été contactés à l'époque par les émissaires israéliens, et ceci jusqu'à l'Afrique du Sud, voyez-vous, ont essayé et parfois ont même posé des jalons. Donc ce que craint Israël, c'est de perdre ou de voir contrebalancer une influence qu'il a, plus ou moins forte, mais quand même constante, je dirais, en Algérie, en Afrique. Et les déstabilisations internes de l'Algérie n'ont pas, à notre avis, disons, porté certainement les fruits. Parce qu'en Algérie, il y a eu, disons, des troubles, peut-on dire, politiques, oui, plutôt tout à fait normaux dans une nation. Mais là, on sentait qu'il y avait peut-être aussi des agitations, peut-être des manipulations. Et il semble que l'Algérie ait conservé, pu conserver, disons, une certaine distance entre des partis politiques, entre des, disons, se maintiennent, disons, dans son, sur son cap, disons, de politique indépendante. Là, l'affrontement avec le Maroc est prévisible. Déjà, vous voyez, le soutien apporté par M. Trump, par exemple, au Maroc, dans sa polémique, dans sa guerre avec l'Algérie, dans sa guerre, disons, dans son affrontement permanent au sujet, vous savez, du Polisario et d'autres, sur lequel on peut parler beaucoup, mais enfin, disons que il semble que l'OTAN, il semble en tout cas chez nous, en France, nous le voyons très bien, que le Maroc est fait corps aujourd'hui avec ce qu'on peut dire l'Europe, c'est-à-dire l'Europe au sens militaire, disons du terme, dans le sens otanesque, vous voyez. Et j'ai beaucoup d'exemples, je peux même privé que je connais, de Marocains et de Marocains qui travaillent dans des différents services. Et il semble que... Je parle de Marocains, par exemple, ici de l'immigration, mais qui sont, il faut le savoir, toujours susceptibles d'avoir le passeport marocain. C'est une décision de Hassan II qui justement montre l'intégration profonde du Maroc avec le système, on peut dire, au sens politique et militaire, je dis, pas au sens, disons, culturel ou non, économique, mais au sens politique avec cette fraction d'Europe. On peut dire même sans exagération que le Maroc fait partie de l'Europe aujourd'hui dans le sens de l'OTAN. Et donc il y a un affrontement qui est cherché avec l'Algérie, mais cet affrontement est justement une sorte de pression israélienne qui dispose d'énormément de complicité à l'intérieur du Maroc. Chacun le sait, comment donner l'influence de M. Azoulay, par exemple, bon, qui est, et d'autres, bien sûr. Il y a eu des adversaires, bien sûr, dans la communauté israélite, à Israël aussi, il faut le dire, pour être juste, au Maroc en particulier. Chacun connaît l'histoire de M. Vanunu, Mordecai Vanunu, qui a dénoncé l'armement atomique israélien. Mais pour revenir à la situation actuelle, il est certain que les Israéliens veulent engager, disons, une sorte de conflit, d'aider à une sorte de conflit pour pouvoir, entre l'Algérie et le Maroc, pour pouvoir justement, disons, diminuer l'importance politique de l'Algérie et agir comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais en l'intérieur de l'Afrique, mais avec les mains plus libres. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'à travers l'Algérie, à travers la coopération avec la Chine, qu'à l'Algérie, à travers également aussi la présence de la flotte russe, par exemple, qui pourrait trouver justement dans les mers libres de Méditerranée, comme ça, un appui en Algérie. Tout ceci fait peur, bien sûr, ou fait peur. Disons, ne plaît pas aux Israéliens, et c'était très important, c'est de voir que la présence du ministre actuel des Affaires étrangères israélien succède à des visites militaires récentes, et ces visites militaires récentes sont finalement, non pas un rappel à l'ordre du Maroc, mais une mobilisation du Maroc, à notre avis, qui est préparée, vous voyez, pour pouvoir justement servir de point de fixation à une sorte de lutte avec l'Algérie et donc, disons, intimider l'Algérie elle-même dans ce qu'elle peut avoir comme initiative diplomatique africaine. L'Algérie est un pays africain qui a une influence importante. Vous savez, après avoir démoli la Libye, eh bien, on veut démolir maintenant l'Algérie. Merci. Qui représente, bien sûr, pour beaucoup de pays africains, alors, disons aussi, une sorte de pôle d'espérance, voyez-vous, un exemple, disons, d'indépendance et de développement aussi. Voyez-vous, tout ceci fait partie d'un jeu, évidemment, qui est extrêmement, dangereux pour la paix mondiale, peut-on dire. Et je dois dire que l'Algérie, évidemment, l'Algérie et le Maroc sont appelés, bien sûr, malheureusement à s'affronter. En tout cas, on s'y prépare activement. C'est ce que démontre, justement, la présence du ministre des Affaires étrangères israélien au Maroc.
Merci. Monsieur Luc Michel, votre analyse, s'il vous plaît.
Et la question historique de l'opposition entre le Maroc et l'Algérie, elle n'explique pas tout, pas plus que la question du Sahara occidental. En fait, elle s'inscrit dans le choc entre les deux blocs, le bloc américano-occidental qui est structuré sur un acte et le bloc de l'Est, c'est une position entre bloc militaire et de plus en plus idéologique. Il y a une véritable guerre entre les deux blocs au travers de l'opposition. Il a été désigné auquel il y a plusieurs années. C'est la porte d'entrée des Américains et de l'OTAN, non plus seulement en Afrique du Nord, comme jusqu'en 2020, dont je m'étais en train de dire que vous savez que les États-Unis et l'OTAN sont en train de se redéployer. Ils ont étendu leur zone d'influence qui va maintenant du Maroc au Mozambique, et le Maroc est essentiel à ce redéploiement. Face à lui, il y a l'Algérie. L'Algérie, elle est impliquée à trois niveaux dans ce choc des blocs. Tout d'abord, il y a la position de l'Algérie. L'Algérie a une position appelée dans le combat anti-impérialiste depuis l'indépendance algérienne. Et depuis la destruction de la Jamaïque il y a 10 ans, l'Algérie est la principale opposition aux Américains et aux sionistes en Afrique. Il faut savoir que l'Algérie, à 3 reprises, a été victime de la répression. C'était la partie du soi-disant printemps arabe, on l'ignore souvent, dès décembre 2010, en 2013 après la destruction de la Jamaïque, et enfin le soi-disant Irak algérien depuis 2 ans. Deuxième dossier, c'est l'alliance avec la Russie. Il y a actuellement une guerre pour le contrôle des voies maritimes, et cette guerre se déploie notamment entre la flotte russe et les flottes des États-Unis, la 6e flotte et les flottes de l'OTAN en Méditerranée occidentale. Le principal allié de la Russie, c'est précisément l'Algérie, qui a une armée puissante qui est équipée de matériel russe. Mais le troisième dossier, c'est l'arrivée de l'Iran en Afrique. L'Iran est en train d'arriver en Afrique en aide des Russes depuis maintenant un an et demi. Elle est introduite dans ce dossier pour le contrôle des enseignants. La flotte iranienne dans l'entrée de l'océan Atlantique et dans l'océan. Mais surtout, il y a le volet économique de l'arrivée de l'Iran. L'Iran est un des États centraux de ce qu'on appelle l'association des États producteurs de gaz avec la Russie et Gazprom, avec le Venezuela. Actuellement, le partenaire de cette alliance, c'est la Guinée équatoriale et le Sénégal. Mais il y a un grand pays producteur de gaz, c'est l'Algérie, qui était déjà présent comme observateur lors du sommet des États producteurs à Malabo, équatorial, en juillet 2019. Et de le tourner vers le monde. Et dans ce schéma, l'Algérie est un allié indispensable des Russes et des Iraniens pour réaliser ce projet. Dès lors, le Maroc est utilisé par les Américains et les Français et les sionistes, évidemment, pour s'opposer à l'Algérie et essayer de réduire ce rôle international de l'Algérie comme allié principal du bloc de l'Est. L'inquiétude des Israéliens eux-mêmes et des Américains étant cette arrivée des Iraniens, puisque vous savez que l'Iran est en train de prendre petit à petit la place de ce qui était autrefois le grand diable russe, jusqu'il y a encore un an ou deux. Maintenant, il y a littéralement une propagande irano-fauve dans toute l'Afrique et en Europe. Il y a des dispositions, il y a des opérations secrètes. Et bien entendu, les partisans du bloc de l'Est comme moi, nous tentons de créer un lobby pro-iranien, que moi j'appelle l'iranosphère, comme nous l'avons fait depuis une quinzaine d'années pour la russosphère en Europe et en Afrique.
Monsieur Dortiguet, en fait, Luc Michel vient de le dire, l'Algérie a été toujours une véritable opposition, un obstacle au projet américain et israélien en Afrique. Et l'Algérie est visée désormais, on vient de le dire en fait tout à l'heure au début de notre émission, est visée en fait ouvertement et publiquement par le régime israélien qui considère l'Algérie comme, si vous voulez, un obstacle à ces projets. L'Algérie est en fait est considérée à la fois par le Maroc et le régime israélien toujours comme un obstacle à la réalisation de leur projet en Afrique. Et Luc Michel vient en fait de faire allusion à ces liens militaires entre l'Algérie et la Russie, mais on sait quand même que la Russie entretient des relations avec le régime israélien également. Monsieur Dortiguet, le Premier ministre algérien a participé tout récemment à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. L'Algérie peut-elle compter d'après vous, sur d'autres facteurs, très particulièrement l'Iran et l'axe de la résistance, la Syrie, l'Irak et le Liban, pour faire face au régime israélien et à ses alliés en Afrique?
à long terme, oui, disons maintenant, mais surtout l'Algérie voit cela à long terme. Car, comme vous l'avez bien expliqué, je me permets de le dire, M. Narostin, il y a bien sûr des limites du soutien de la Russie, car la Russie obtient évidemment assez bien avec le régime sioniste. C'est exact, il faut le dire, on ne le dit pas suffisamment, puisque même, enfin, chacun sait que c'est la Russie quand même, sous Staline bien sûr, qui a demandé la formation de cet État, par l'intermédiaire de M. Gromyko. Mais je crois que l'Algérie, pour voir ça de deux points de vue, l'Algérie, après les troubles qui l'ont agité, a compris que l'on voulait profiter de certaines difficultés internes qui sont tout à fait normales, qui tiennent au développement de l'Algérie. On a voulu, disons, profiter de cela pour pouvoir diminuer et neutraliser son rôle. Son rôle, disons, sur le plan, pas politique, mais sur le plan économique. Et donc, il y a eu un ressaisissement, à mon avis, de toutes ces forces en Algérie pour pouvoir, justement, séparer ce qui était véritablement des conflits sains à résoudre et aussi des tentatives de subversion. Tentatives, disons, qui sont venues de partout, d'Europe, de France, malheureusement, puisque nous n'avons jamais été finalement en paix avec l'Algérie. Nous avons toujours considéré, je dis nous, c'est-à-dire de nombreuses couches politiques françaises, ont considéré l'Algérie comme une sorte d'adversaire. Voyez-vous, le terme de coopération n'a vraiment été que souvent qu'un mot vide. Nous sommes non pas sans réalité, mais sans avoir, disons, l'ampleur qu'il aurait dû avoir. Cette chose étant dite, que l'Algérie voit, par exemple, un allié, un allié économique, un allié à plusieurs points de vue, culturel aussi, avec l'Iran, je le crois. Je crois que l'Algérie voit les choses maintenant à long terme et justement elle pèse les menaces dirigées contre elle à long terme. Elle les pèse justement à cause de la politique d'hostilité du Maroc, c'est-à-dire à cause du soutien plutôt, pour être plus exact et plus juste, du soutien de force, disons, de force hostile au monde arabe en général, soutien apporté au Maroc, apporté, je ne veux pas mettre en cause la dynastie marocaine et autres, mais disons que la société marocaine est beaucoup plus, paralysée par des forces, négatives que l'Algérie. L'Algérie a quand même, de par sa lutte pour l'indépendance, qui a été bien plus forte que celle du Maroc, j'ai suivi des choses autrefois, aussi tout jeune, je les ai bien suivies, je dois dire qu'elle représente quand même, il y a une conscience politique que l'on ne trouve pas dans les autres pays, surtout au Maroc. On le trouve en Tunisie, mais on ne le trouve pas, à mon avis, au Maroc. Et l'influence israélienne aussi est très puissante à l'intérieur du Maroc. Elle a toujours été. Et c'est maintenant, nous sommes à l'heure de vérité, si je peux dire. Avec la chute de la Libye également, l'Algérie se sent aussi investie quand même d'un rôle. Elle sent qu'elle est menacée d'abord, puisque le rôle que jouait la Libye à l'intérieur des projets d'émancipation africains, enfin, disons, comme sur le plan monétaire en particulier, eh bien, l'Algérie peut le reprendre sur le plan, disons, de l'indépendance énergétique et autres. Et il y a certainement beaucoup de piliers, ce que a très bien dit M. Luc Michel, et j'attire l'attention sur... Ce n'est pas du tout personnel, ce que je dis, c'est personnel, bien sûr, amical, mais c'est aussi l'expérience que j'ai de la Belgique depuis de nombreuses années. Je reconnais que beaucoup de Belges sont très, très au courant, beaucoup plus que les Français, évidemment, du monde international et du monde africain en particulier.
Merci beaucoup.
Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Michel, mais je dois dire que cette lutte dont l'Algérie a conscience sur le territoire africain, dont cette recherche d'alliance avec l'Iran, je dirais, civilisationnel et énergétique, tout ceci, bien sûr, est le signe et le présage, disons, de conflits, de batailles très dures. Et je dois dire que c'est la raison pour laquelle, justement, on peut dire le lièvre s'est levé du bois. C'est-à-dire que l'entité sioniste s'est manifestée telle qu'elle, voyez-vous, parce que c'est quand même arrivé avec comme un ambassadeur, etc.
Merci beaucoup.
Je crois, l'autre jour, une mission militaire à l'uniforme. Tout ceci, quand même, frappe le monde arabe, le monde musulman.
Merci.
Et dois dire que si Israël a fait ce pas, c'est que justement pour lui, la situation est très sérieuse. Et donc, il faut, disons que de part et d'autre, il y a une attention portée à ce que fait l'Algérie, à ce que fait l'Afrique en général.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dortiguet. Luc Michel, nous avons 2 minutes en fait devant nous. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et l'Algérie est menacée, selon monsieur Dortiguet. L'Algérie est-elle entrée, d'après vous, dans une confrontation avec le régime israélien pour défendre ses intérêts au niveau africain?
C'est une guerre par procuration. Mais il y a un quatrième dossier, c'est le dossier du panafricanisme. Actuellement, il y a une nouvelle génération qui est émergée, qu'on appelle le néo-panafricanisme, qui est alliée à la Russie, justement, en Afrique. Il y a actuellement un rapport du Pentagone, une campagne de diffamation. Je suis au cœur de celle-ci, comme ça je peux vous en parler. Je suis désigné comme le principal lobbyiste de la Russie en Afrique. Et le but de tout cela, il est très simple, que le néo-panafricanisme est très hostile à la subsistance de la France-Afrique. Et le Trump est le principal allié de Macron et de la nouvelle France-Afrique pour tenter de bâtir une France-Afrique 2.0. Il est donc essentiel l'alliance des néo-panafricanistes avec la Russie et avec l'Iran, qui est dénoncé par les Américains d'ailleurs et par les Français ouvertement. Même Macron l'a cité il y a quelques semaines. Et donc, il faut comprendre qu'au milieu de tout cela, évidemment, une Afrique puissante ou une Algérie puissante existe et s'oppose au Maroc est intolérable à Paris lui-même. Voilà donc le quatrième élément de ce dossier. Ces quatre éléments, l'alliance russe, l'alliance iranienne, l'opposition au Maroc et le panafricanisme, fait que l'Algérie est devenue la cible de ce bloc américano-sioniste. Et évidemment, parallèlement à cela, qu'elle reçoit un soutien important.
Merci beaucoup, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Le revenu national brut de l'Iran a été multiplié par 1,5 l'année dernière. Le revenu national brut, RNB, est la valeur totale de tous les biens et services produits au cours de l'année sur le territoire de l'État, plus les revenus reçus par les citoyens du pays de l'étranger, moins les revenus exportés du pays par les étrangers. Compte tenu des sanctions illégales imposées contre la République islamique d'Iran par les États-Unis, comment peut-on analyser ces résultats? Décryptage avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique.
En termes économiques, il faut décoder, à mon sens, cette nouvelle comme suit. Mais tout d'abord, on va d'abord chercher à définir ce qu'est le revenu national brut. Le revenu national brut mélange un chiffre de stock, le PIB, auquel il ajoute le solde des flux entrants et sortants. Si vous avez un revenu national brut, comme c'est le cas ici dans ce qui concerne la République islamique d'Iran, qui progresse, ça signifie deux choses. Ça signifie que d'un côté, eh bien, le PIB a augmenté, la production de l'Iran a augmenté, et d'autre part, les revenus que l'Iran a tirés de l'extérieur ont été largement supérieurs aux revenus que l'Iran a alloués à l'extérieur, à ses partenaires commerciaux. Alors le décodage économique de cette situation, eh bien, elle correspond en réalité à la façon dont les autorités iraniennes ont accompagné la remise à l'ordre du jour des sanctions par Donald Trump. À ce moment, l'Iran a fait le choix de bloquer un maximum d'importations et de privilégier sa production nationale. Cela a eu pour effet de diminuer des sorties à destination de l'étranger et de maintenir, du côté du PIB, une production nationale. De surcroît, ce modèle continue toujours. Et en plus, il faut ajouter à cela des rentrées de plus en plus importantes pour la République islamique d'Iran, du fait que les prix pétroliers, les cours du pétrole, le baril, augmentent sans cesse. On sera peut-être à 85, 90 dollars à la fin de cette année. Et donc, il y a un renforcement suite au rétablissement de la conjoncture dans la plupart des grands pays producteurs. Il y a un rétablissement de la demande de pétrole. C'est une opportunité de revenus supplémentaires pour l'Iran. À titre politique, ces chiffres signifient que les sanctions qui ont été adoptées par les États-Unis de manière tout à fait unilatérale contre la République islamique d'Iran, eh bien, ce programme de sanctions est aujourd'hui, il faut être très clair à ce sujet, un échec consommé. Alors, je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de cet échec en se disant ceci. Est-ce que la République islamique d'Iran pourrait continuer à l'avenir à tenir tête aux États-Unis? Je rappelle que nous autres Européens, je suis Européen, nous n'osons pas le faire. Est-ce que l'Iran pourrait continuer à le faire et continuer à progresser? Eh bien oui. Il faut pour cela relever un fait qui est un fait de long terme. Quand on regarde le classement Shanghai de la République islamique d'Iran, ces universités sont les meilleures dans le monde islamique. Alors c'est un fait évidemment éducatif et culturel, mais cela a des incidences économiques. Avec une main-d'œuvre aussi bien formée de techniciens, de cadres, d'analystes et de scientifiques, eh bien l'Iran est un pays qui peut moderniser sa production, substituer de plus en plus de production locale à des importations et se renforcer, quand bien même des sanctions unilatérales et injustes viendraient frapper le pays. Donc, quelque part, en faisant ce choix de tenir tête aux États-Unis et d'accompagner cette montée des tensions que n'avait pas désiré l'Iran, eh bien, votre gouvernement a donné une réponse qui a permis de protéger son tissu industriel, mais aussi et surtout de l'améliorer, parce qu'il disposait des ressources qui lui permettaient de le faire. Donc, aujourd'hui, en termes de décodage politique, sans que ce soit écrit nulle part dans les journaux occidentaux, dans nos pays, on est bien obligé de constater que l'Iran est une grande puissance qui compte et qui comptera davantage demain encore. Parce que quand bien même ce pays est frappé de sanctions, il arrive à substituer à nos exportations, donc des rentrées de revenus pour nous, une production nationale. Et il le fait parce qu'il dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée.
Pourquoi les États-Unis ont perdu la partie en Afghanistan? Pour Bruno Geek, la débâcle des États-Unis en Afghanistan n'est pas le fait d'une erreur stratégique. Washington aurait eu pour but principal d'endiguer les influences russes et chinoises dans le pays plutôt que de bâtir un État-nation stable. Plutôt dérisoire, ces commentaires journalistiques reprochent à Joe Biden de se comporter comme Donald Trump, qui accuse Washington de renoncer à son hégémonie planétaire et se livre à une narration suggérant que les États-Unis n'en ont pas fait assez, un peu comme ces bellicistes qui, durant la guerre du Vietnam, ne comprenant rien à rien, réclamaient davantage de troupes au sol et davantage de bombes sur le nord du Vietnam. Comme si un surcroît d'impérialisme pouvait sauver l'impérialisme, et comme si 20 ans d'occupation militaire en Afghanistan, des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliards partis en fumée n'étaient qu'un acompte et qu'il fallait verser le solde tout entier. Tout aussi dérisoire, pour la même raison, est la thèse de l'erreur stratégique commise par Washington, soutenue par certains experts occidentaux qui trouvent que cette invasion était une bonne idée au motif qu'il fallait punir les méchants talibans complices d'Al-Qaïda, mais que malheureusement, elle a été mal exécutée. Si c'était vraiment le cas, pourquoi les États-Unis, constatant leur erreur, n'ont-ils pas plié bagage comme ils l'ont fait en Somalie en 1992 ? Constamment ressassée après chaque échec, cette thèse de l'incompétence ou de l'amateurisme de Washington évacue la question des véritables motivations de l'intervention étrangère. Argumentation qui sert d'écran de fumée, elle fait comme si la légitimité de cette intervention allait de soi et comme si le problème, en définitive, était un problème de forme et non un problème de fond. On s'autorise ainsi à passer sous silence les véritables ressorts de ce conflit majeur. On oublie que ce vaste pays montagneux est un pays charnière qui fait la jonction entre les mondes iranien, turc et indien, et qu'en plaçant son territoire sous contrôle direct ou indirect, Washington entendait obtenir de cette opération, à la suite du reflux soviétique, de copieux dividendes stratégiques. On oublie alors que la principale motivation de l'invasion étrangère perpétrée en 2001 masquait derrière le noble motif de la soi-disant lutte contre le terrorisme était de prendre pied à proximité de la Russie et de la Chine. Elle se contentait de prolonger à cet égard l'implantation de la CIA auprès des factions terroristes inaugurées avant même l'intervention soviétique de 1979 au profit d'un État afghan légitime et dirigé par des forces laïques. En jetant une tête de pont en Afghanistan, Washington se donnait ainsi les moyens, à terme, d'endiguer l'influence de Moscou et de Pékin, voire de déstabiliser sur leur flanc sud ces puissances continentales, rivales systémiques et la thalassocratie états-unienne. Quitte à transformer ce pays en pouponnière à terroristes dont la manipulation sous le règne de Zbigniew Brzezinski a été élevée au rang d'axiome de la politique des États-Unis dans le grand Moyen-Orient. Quitte à prendre le risque aussi de subir le syndrome de Frankenstein, la créature terroriste finissant par se retourner contre son créateur et adoptant son propre agenda en attendant l'ultime renversement d'alliance qui transformera à nouveau l'ennemi supposé en allié objectif, voire en allié tout court au prix d'une amnésie volontaire des contentieux passés. Quand Joe Biden dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à construire une nation en Afghanistan, il faut le prendre au mot. En résumé, il est évident que les États-Unis n'ont pas abandonné l'Afghanistan le 16 août 2021 parce qu'ils se sont rendus compte, 20 ans plus tard, qu'ils avaient commis une erreur stratégique, selon Hubert Védrine. S'ils ont plié Kassak, ce n'est pas non plus parce qu'ils ont accompli leur mission, selon Joe Biden, sauf si l'on admet, bien entendu, que la mission était de perpétuer le chaos, ce qui est exact. Quand Joe Biden dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à construire une nation en Afghanistan, il faut le prendre au mot. Cette longue occupation était en réalité une entreprise de démolition. Évidemment, ce n'est pas ce que Joe Biden a voulu dire. Il veut faire croire que cette débandade finale est justifiée par la victoire sur Al-Qaïda, alors que les métastases de cette organisation parrainée par la CIA au début des années 80, rappelons-le, n'ont cessé de se répandre depuis 20 ans. La vérité est donc à des années-lumière de cette justification dérisoire, même si formellement, ce que dit Joe Biden est exact. Les États-Unis n'ont rien construit en Afghanistan, se contentant d'y exercer une capacité de nuisance qui a été finalement mise en échec par des adversaires plus forts qu'eux et qui tirent leur force d'un avantage moral considérable. Ils sont dans leur pays et ils se battent pour y exercer leur souveraineté si les derniers représentants de la tutelle impériale ont déguerpi d'Afghanistan. C'est tout simplement parce qu'ils ont perdu la guerre. Et ce sont les talibans, ces ex-alliés transformés en résistants par l'occupation étrangère, qui les ont mis dehors après avoir dispersé l'armée en carton-pâte d'un régime fantoche, comme au Vietnam en 1975.